franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
Ce matin dans la presse, des raisons d'espérer.
Oui, quelques bonnes nouvelles, elles ne sont pas si fréquentes. La fiction française sort les griffes, nous prévient le Figaro dans ses pages culture. Alors vous avez dévoré Mad Men, Homeland, Wire et tant d'autres. Eh bien restez accrochés à votre fauteuil, car débarque sur nos chaînes de télé Versailles, 10%, Malaterra ou encore Trépalium. Du Made in France pur jus pour faire aussi bien que les grands. Entendez les Américains. Des budgets pharaoniques pour la France en tout cas. 27 millions d'euros pour les 10 épisodes qui racontent comment Louis XIV a édifié Versailles. Un tournage en anglais avec des acteurs internationaux, des réalisateurs de renom. Bon, quelques péripéties aussi. Grosse peur par exemple pour la série 10% imaginée par Dominique Besnéard sur le monde feutré des agents de cinéma. Quand Sophie Marceau a fait défection, raconte le journal. Il faut dire qu'on lui demandait de jouer une actrice qui n'est plus une jeune première et à qui Quentin Tarantino imposait tout simplement une chirurgie esthétique, pas franchement sympa. Et la France, révèle le Figaro, n'a pas vraiment encore la culture de l'autodérision. Qu'importe, au final donc pour la première fois, une moisson de séries qui rivalise de diversité et d'audace. Et il n'y a pas qu'à la télé que le Made in France semble retrouver des couleurs. Quelques frémissements aussi dans les entreprises françaises. Aujourd'hui en France, Le Parisien raconte l'histoire de la résurrection de Romans, l'ex-capitale de la chaussure de luxe dans la Drôme, à l'agonie pendant 40 ans et de nouveau bien dans ses pompes, écrit le journal. C'est le pari d'une poignée d'entrepreneurs qui ont choisi de travailler autrement, c'est-à-dire ensemble. Fini les énormes commandes, plusieurs petits ateliers collaborent les uns avec les autres. Ils se positionnent sur des marchés de niche très précis qui peuvent aller jusqu'à la fabrication de pièces uniques. Et ça marche, une centaine d'emplois ont été créés dans le bassin de Romans.
Allez Hélène, un dernier exemple d'histoire qui se finit bien.
Oui, enfin l'histoire n'en est encore qu'à son commencement en réalité, mais l'humanité s'est rendue vendredi chez les ex-Fralib à Gemnos, dans les Bouches-du-Rhône, pour assister au coup d'envoi de leur propre production de thé et d'infusion. Vous souvenez qu'Unilever voulait fermer cette usine ultra-moderne. Et bien après 1336 jours de lutte, les salariés se sont montés en SCOP, en coopérative pour reprendre l'usine. Leurs productions seront dans les hypermarchés et les supermarchés d'ici la fin du mois. Et pour le journal communiste, eh bien cette SCOP est l'exemple vivant d'une autre manière d'aborder l'économie. Une économie sociale et solidaire rendue possible par l'absence du poids d'actionnaires vorace. Fin de citation. Alors, c'était pas forcément cette économie-là qui était au centre des préoccupations de Manuel Valls hier à La Rochelle. Tout occupé qu'il était à devoir rassembler ses amis après les sorties d'Emmanuel Macron sur les 35 heures. De son discours devant les socialistes, la presse retient quasi unanimement. 1. Il mouille sa chemise. Au propre comme au figuré, comme l'écrit entre autres Dominique Garraud de la Charente Libre. 2. Le PS a vraiment un problème de ligne. Qui peut comprendre la position de Manuel Valls quand dans un même discours il sanctuarise la durée légale du travail à 35 heures et annonce une réécriture du code du travail, s'interroge Francis Pécresse dans les Échos. Et 3, ils sont quelques-uns à souligner tout de même l'habileté au moins oratoire du Premier ministre. Le Figaro relève que quand ses amis socialistes sifflent la dénonciation de la complexité du code du travail en s'appuyant sur le constat du livre de Robert Badinter, eh bien Manuel Valls les stoppe. Que quelques militants sifflent Robert Badinter, cela m'étonne quand même un petit peu, lance-t-il. Fin de la bronca, sinon de l'opération de persuasion. Dans l'opinion, un proche d'un ministre tente de résumer les divergences entendues tout le week-end à La Rochelle par « on est tous socialistes en fait ». Mais simplement, certains ont pris l'option latin et d'autres l'option éducation physique. Pas sûr que ça éclaire vraiment le débat.
Mais cela nous amène tout naturellement à une autre rentrée, celle des profs aujourd'hui.
Et un acronyme à la une de l'opinion pour se moquer de ceux dont l'éducation nationale est absolument friande, EMC et MIREPLUS. Un acronyme pour se moquer de vous, Najat Vallaud-Belkacem, CVPEFC. Alors est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire?
Non,
vous tentez pas.
C'est
mais voilà, alors CVPEFC, ça veut dire ça va pas être facile à comprendre. Et en gros, ça résume votre rentrée. Parce que dans votre rentrée, il y a justement des nouveautés. Vous en avez parlé avec Patrick Cohen au début de l'entretien, comme l'EMC, l'enseignement moral et civique, qui va donc être dispensé du CP à la terminale. La Croix estime que faire vivre les valeurs est un défi pour l'école. Et le journal relève un parallèle assez cruel. Ça se passe en Belgique francophone et les cours d'EMC sont devenus des cours de rien. Eh oui, depuis 1958, les parents avaient le choix entre des cours de religion et des cours de morale. Mais en mars dernier, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt explosif, jugeant que la morale s'identifiait à une appartenance idéologique. Résultat, comme personne n'arrive à se mettre d'accord sur le contenu d'un cours d'éducation à la citoyenneté, eh bien ce cours obligatoire de quelque chose donc est devenu dans le débat public un cours de rien. Pas de risque chez nous, même si les profs, effectivement, Patrick le disait, ne savent pas encore très bien comment se débrouiller.
Ah non, ils
ne
savent pas, ils le disent au standard de France Inter. Il n'y a rien sur la page, paraît-il, du ministère de l'Éducation nationale, rien sur le site internet.
Alors, ça commence par un cours de rien.
C'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Les ressources pédagogiques ont été d'ailleurs construites au lendemain des attentats de janvier dernier, au moment où l'école avait été regardée avec autant d'attention et les professeurs nous avaient dit être relativement démunis sur ces questions. Donc, des ressources pédagogiques sont sur le site eduscol.gouv.fr. Je vous invite à vous y rendre.
Nous allons regarder de suite.
Et ce que vous décriviez de la Belgique montre bien que, de temps en temps, c'est bien de regarder ce qui se passe à l'étranger pour se rassurer aussi.
Ah oui, pour se rassurer. Je ne sais pas si, effectivement, c'est tout à fait rassurant. Pour eux, en tout cas, ce ne sont pas des cours de rien, même s'ils se demandent souvent tous les jours en fait ce qu'ils font là. Eux, ce sont les élèves du lycée professionnel Alfred Sauvy, près de Perpignan, que Patrice Terraz a suivi pendant un an. C'est un magnifique reportage photo à découvrir dans le magazine 6 mois, le 21e siècle en images. Clichés de filles et de garçons, plus de garçons d'ailleurs, qui sont là pour apprendre les métiers du bâtiment, mais dont la moitié a atterri là par défaut. Ce sont des ados qui exhibent leurs abdos, leur corps, c'est leur unique fierté, raconte le photographe. Des ados rieurs entre eux, mais qui pètent souvent un câble. Et des profs qui tantôt ont du mal avec ces provocations et qui tantôt expliquent que si t'as pas le péchon à Alfred Sauvy, ben tu prends cher. En tout cas, tous les profs qui se plient en quatre pour tirer les gamins vers le haut et débarrasser leur lycée de sa mauvaise réputation et puis rentrer enfin loin des polémiques sur les programmes La Morale et vous, Madame la Ministre, celle qui se déroule à Damas, malgré les bombes, raconte les dernières nouvelles d'Alsace, récit des quelques 260 écoliers français qui prennent le chemin du lycée français Charles de Gaulle au cœur de la capitale syrienne. Sacs de sable le long des classes, trousses de secours à portée de la main, pas de récré, des cours qui sont dispensés par la pharmacienne pour la biologie, par un archéologue pour l'histoire, mais c'est une rentrée comme n'importe quel autre philosophe, le proviseur du lycée qui est l'un des derniers Français encore sur place à Damas.
On termine cette revue de presse, Hélène, par un silence.
Oui, le silence des voix qui portent, c'est Alexandra Schwarzbrod dans Libération qui, s'appuyant sur une nouvelle biographie consacrée à Simone Signoret, pointe le silence des intellectuels et des artistes de premier plan face à la tragédie des migrants. Simone Signoret, seule ou avec Montand, ne se priva jamais, dit-elle, d'un de ses péchés capitaux, se mêler de la marche du monde, prendre le risque de défendre, de soutenir, de protester et donc de se tromper. Qui est la Simone Signoret d'aujourd'hui, se demande-t-elle. Pour l'instant, silence.